Pablo Pliot. Vivien, bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonjour.
Rédacteur en chef de la revue Regard. Alain Duhamel, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Avant de nous faire débattre, on va regarder un compteur qu'on surveille attentivement parce que c'est le compteur des désistements. On est à 10 minutes d'un horaire fatidique, 18h, puisque les candidats qualifiés avaient jusqu'à 18h pour faire acte de candidature ou se désister. Et selon nos confrères du Monde, nous sommes à 216 désistements de candidats. Ça veut dire qu'il reste peut-être une petite centaine de triangulaires sur les 306 qui avaient été comptabilisés dimanche soir. Alors, ça veut dire que le Rassemblement national n'aura peut-être pas la majorité absolue dimanche. Une autre majorité est-elle possible, Alain Duhamel ?
Alors, je crois que c'est une période tellement importante, tellement insolite. Il faut expliquer au départ les différentes hypothèses, rapidement, évidemment. Bon, la première hypothèse, c'est une majorité absolue pour le Rassemblement national. Dans ces cas-là, on a une cohabitation, mais pas une cohabitation de velours, comme on disait quand il y avait Balladur et Mitterrand, mais une cohabitation de combat. Ça a déjà commencé, cette hypothèse, avec les déclarations de Marine Le Pen sur le rôle protocolaire, entre guillemets, du chef des armées, ou bien le coup d'État administratif de nomination de hauts fonctionnaires. Bon, première hypothèse. C'est viable et c'est dur. Deuxième hypothèse, il n'y a qu'une majorité relative pour le Rassemblement national. À ce moment-là, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de n'importe quoi, qu'ils ne voulaient pas, en gros, que se reproduise ce qui vient de se produire pendant... Voilà. Et donc, il faudrait qu'ils aient une alliance, ou en tout cas un engagement de législature avec des députés qui accepteraient. Ça ne peut venir que du côté du LR, et LR, pour l'instant, ne le veut pas. Troisième hypothèse, on arrive à ce qu'on appelle... la majorité plurielle. En gros, ça serait communiste, socialiste, écologiste, macroniste et éventuellement LR. Bon, de toute façon, il n'y aurait pas les cinq. Et notamment, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir LR. Pour que ça marche, que ça claudique, hein, pas que ça court, mais pour que ça marche quand même, il faudrait qu'il y ait au minimum... la neutralité des insoumis, qui ne peuvent pas être avec, de toute façon, les macronistes, mais qui peuvent...
Ils ont dit non, hein. Ils ont dit les insoumis,
oui, bien sûr.
Partis seront bas.
Mais non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, ben voilà, de deux choses l'une, où ils acceptent que ça ait lieu et ils ne signent pas de motion de censure, etc., ou ils n'acceptent pas. C'est, disons, au moins aléatoire. Quatrième hypothèse, à défaut de tout ça, un gouvernement dit de techniciens... Sans majorité politique naturelle, pour un an, il faudrait qu'il soit dirigé par une personnalité qui ait l'autorité de Jospin, l'habileté de Raffarin, le sens de l'État de Cazeneuve, etc.
Bon, Alain Duhamel.
Si.
Premier ministre.
C'est son portrait.
Est-ce que vous en seriez capable?
Alors là, la réponse est non.
Bon, vous ne le souhaitez pas.
Je ne le souhaite pas, non, effectivement. S'il n'y a pas tout ça, il y a encore une seule hypothèse qui ne réglerait rien, mais qui, dans ces cas-là, si aucune des autres scénarios ne fonctionnait, eh ben, ce serait une élection présidentielle.
L'Assemblée plurielle, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par Gabriel Attal, et il l'a dit, redit encore aujourd'hui dans ses déplacements. C'est quoi l'Assemblée plurielle, vous y croyez ?
Moi, j'y crois. D'abord,
D'abord,
lorsqu'on regarde les projections qui s'affinent de plus en plus au fur et à mesure que se désistent des candidats et des candidates, on voit qu'il y a un espèce de rééquilibrage, en tout cas que le Rassemblement national commence à voir sa majorité absolue s'éloigner. Et que, du coup, le nouveau Front populaire gagne... quelques-uns de députés, etc. Je dis pas que à la fin il y aura des groupes égaux ou que le nouveau Front populaire passera devant. On est tout à fait d'accord, Alain. En revanche, le choix qui pourrait être fait par le président de la République, car il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui doit nommer le Premier ministre, c'est de choisir un Premier ministre qui vient des rangs, ou une Première ministre d'ailleurs, qui vient des rangs du nouveau Front populaire, et ensuite de fonctionner comme c'était le cas pendant deux ans, entre 2022 et 2024, où, je le rappelle, il n'y avait pas de majorité absolue d'aucun des groupes, ni même d'aucun des blocs, comme on dit, ni le bloc de gauche, ni le bloc central, ni le bloc d'extrême droite, et que Le problème, en fait, du fonctionnement entre 2022 et 2024, c'était le suivant. C'était qu'il n'y avait pas de respect de la co-construction des lois par le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement était considéré comme une caisse enregistreuse, comme ça a été le cas d'ailleurs entre 2017 et 2022.
Bah, disons que c'était une caisse agitée, alors.
Et c'était une caisse agitée. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à la fin, ça se terminait toujours par un 49-3.
Non, pas toujours. Il y a quand même une trentaine de lois autres que les textes budgétaires qui ont été votés.
Exactement. Eh bien, c'est exactement ce qui pourrait se passer dans le cadre d'une Assemblée nationale où il n'y aurait pas de majorité au Rassemblement national et où pourraient se trouver des majorités contextuelles sur certains textes avec le nouveau Front populaire, pour le coup France Insoumise comprise, les macronistes le Front populaire. Alors, je ne vois pas où est le problème.
Je trouve que c'est très ingénieux comme sixième scénario, mais c'est plutôt romanesque que réaliste. L'idée selon laquelle, par hypothèse, il y aurait un Rassemblement national qui continuerait à avoir plus de députés que les autres.
Exactement.
Bon, et que le Rassemblement national n'étant pas en état de former un gouvernement, ce serait la gauche, parce que ce serait la gauche, qui formerait le gouvernement en ayant moins de députés qu'eux. Franchement, je ne crois pas que ce soit viable.
Si je puis me permettre, c'est ce qui existe dans beaucoup de démocraties parlementaires, notamment les démocraties du Nord, où vous avez des groupes parfois qui forment des gouvernements, des groupes de 15 députés, parce qu'ils sont pivots, qui forment des gouvernements.
Je connais.
Faut changer la culture.
Je connais assez bien ça, mais ce sont des régimes parlementaires avec un scrutin proportionnel. Nous avons un régime quasi présidentiel avec un scrutin majoritaire.
Circonstances exceptionnelles, il faut des conséquences particulières.
Je pense que ce serait de demander avec un Rassemblement national ayant le premier groupe, demander à la gauche de gouverner, franchement, ça serait pris pour un refus de l'issue des élections législatives.
Il y aurait
une énorme frustration.
Les électeurs se sentiraient volés. Rappelle que l'extrême droite dans sa globalité, le RN a fait un peu plus de 29%. Si on prend l'extrême droite en comptant les LR.
Avec les Ciotistes.
Oui, voilà. Si on prend les Ciotistes, ça fait 34%.
Ils sont ensemble.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, disons 34% pour l'extrême droite. Je suis désolé. Désolé, mais il reste 66% des Français qui n'ont pas voté pour l'extrême droite. Et ils ont tout à fait le droit de considérer qu'ils font un bloc républicain qui n'est pas un bloc de projet.
Ce n'est pas de très bonne foi, parce que ceux qui ont voté pour les Républicains, LR,
les Républicains,
refusant l'alliance, pour l'instant en tout cas, avec le Rassemblement national, mais ils ne vont pas soutenir un gouvernement avec des insoumis, mais ni avec des communistes, ni avec des socialistes.
Alors, ajouter les 10 points des LR, ça ne fait que 44%.
Non. Et
je vois la majorité.
Et la majorité sortante qui sera une minorité, mais qui peut avoir en tout cas une centaine de députés par hypothèse. Peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas une centaine par hypothèse, elle ne va pas soutenir un gouvernement avec les insoumis. Franchement, la seule chose qui serait imaginable, que je dis imaginable, je ne sais pas quel est le pourcentage de chance pour que ça se produise. C'est peut-être une chance sur 10, mais imaginable, ce serait communiste, socialiste, écologiste et centriste, donc macroniste. On pourrait imaginer ça. Mais déjà, ça serait très mal pris par tous ceux qui, évidemment, auraient voté pour le Rassemblement national et très mal pris aussi par ceux qui auraient voté pour les Insoumis. Donc, c'est pour ça que je commençais par dire qu'on est dans une situation non seulement insolite, mais dangereuse, dans laquelle, en plus, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qui sera parallèle à tout ce qui pourra se passer à l'Assemblée nationale, qui est le comportement dans la rue. C'est-à-dire que si c'est le Rassemblement national, il est probable que du côté des organisations syndicales et des partis de gauche, il y aura manifestation sur manifestation. Si c'est le Rassemblement national qui a le premier groupe, mais un gouvernement de gauche conforme, on aura alors là pour des risques de violence.
Pardon, mais quand même, on voit quand même que les électeurs choisissent plutôt des programmes de rupture, aussi bien du côté du RN que du nouveau Front populaire, qui est un programme qui n'est pas vraiment social-démocrate, qui est plus inspiré par les insoumis sur la partie économique que par les socialistes ou par François Hollande, qui est pourtant dans cette alliance. Donc tout d'un coup, leur servir quelque chose de modéré, avec, ça serait quand même un déni de démocratie par rapport au choix des électeurs, même si on peut le remettre en question. Mais enfin, c'est quand même les électeurs qui ont le dernier mot en démocratie.
Mais vous savez, je pense qu'on fait une erreur, c'est de croire que nécessairement le compromis pour obtenir, en l'occurrence, un contrat de gouvernement va forcément.
Alors on fait quoi sur la réforme des retraites, par exemple? Alors, réforme des retraites, c'est quoi le compromis?
La réforme des retraites, j'ai écouté Manuel Bompard comme François Ruffin ce matin, et les deux ont dit, si jamais nous devons gouverner, nous avons une boussole, une ligne rouge, c'est l'abrogation de la réforme des retraites.
Ah oui.
Mais non, mais attendez, tout
ça,
c'est
ça, ça marche pas.
Mais tout ça, c'est de la négociation.
Mais non. La négociation, c'est de la sincérité. C'est tout à fait autre chose. Mais quand on a fait de l'abolition du retrait, de la réforme des retraites, un principe intangible, on peut pas commencer à dire on va former un gouvernement, mais on attendra. Mais ça le Rassemblement national peut le dire avec ses 34% de voix. Je ne pense pas que la gauche puisse dire la même chose. Et ceux qui, par millions, ont défilé pour demander l'abolition de cette retraite, c'était la gauche. La gauche serait obligée de vouloir le faire. Elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée.
Alors, moi, je vais vous dire, personnalité.
Il n'y aurait aucune chance.
Non, mais d'abord, si vous reposez la question aujourd'hui à des députés macronistes qui sont plus libres de leurs paroles et de leurs votes, qui ne l'ont été dans la mandature 2022-2024, peut-être qu'ils répondraient différemment à la question est-ce que vous voulez l'abrogation ou pas.
La deuxième chose,
c'est prenez une personnalité comme Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, il était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il a mené la réforme des retraites.
Oui.
Et aujourd'hui, il se retrouve dans une alliance, le Nouveau Front Populaire, qui a validé l'abrogation des retraites. Pour vous dire qu'on peut changer d'avis.
Ça prouve qu'il n'a pas le vertige.
Non, ça prouve qu'on peut changer d'avis. On peut considérer qu'on a fait une connerie.
Être le directeur de cabinet du Premier ministre qui met en place la réforme des retraites et ensuite aller au sein d'une alliance de gauche dont la première exigence est l'abolition des régimes de retraite, je veux dire, c'est un fil de feriste qui vraiment est bien attaché, parce qu'autrement il tomberait.
Moi, je vous dis qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et que peut-être qu'il a considéré.
Malheureusement, par expérience, il y a aussi des gens intelligents qui changent d'avis, mais ça ne se termine pas forcément bien.
En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi ça se terminerait mal.
Non, mais là, je comprends très bien que vous ayez des envies, des utopies, des idéaux, en fait, des convictions, etc. Je comprends très bien.
Mais surtout une issue. Il faut une issue, Alain.
Non, mais il faut une issue qui est une chance. Je suis pas ambitieux, je vous dis, qui est une chance de tenir une année. Soit c'est une issue vraiment politique, et à ce moment-là, c'est le Rassemblement national, soit c'est une espèce de synthèse provisoire, conçue comme telle, et modeste dans ses objectifs. J'insiste là-dessus, modeste dans ses objectifs. Donc, ne prenons pas un grand tournant, ni en matière de retraite, ni en matière de fiscalité, ni en matière d'autre chose. Mais vous ne le trouverez que s'il y avait une gauche unie, qui serait par principe minoritaire dans l'Assemblée, donc qui serait censuré au bout d'une semaine.
Il y a un objectif qui doit être prioritaire pendant cette année, peu importe que... Si les objectifs économiques, fiscaux, etc., de réforme doivent être petits, et ça, je l'entends tout à fait. En revanche, il y a un objectif qui doit être prioritaire, c'est reconstruire notre démocratie, reconstruire le débat public qui aujourd'hui s'est appauvri, qui aujourd'hui est devenu violent.
Reconstruire la démocratie, c'est quelque chose qui est tout à fait consensuel et qui est tout à fait.
C'est pas consensuel, Alain. Aujourd'hui, vous avez
beaucoup de gens. C'est exactement la démocratie. Les gens votent en masse.
Non, mais attention.
Non, non, non. Ah bon, c'est pas ça.
Non, c'est un.
C'était voter abstention, c'est pas la démocratie quand les gens votent. C'est
ah
pas
non, mais moi j'ai jamais considéré que l'abstention ce n'est pas la démocratie. Oui, c'est la démocratie sais, autant vous... que les gens qui votent. Non, en revanche, bah moi je vous dis que si.
Bah,
et la deuxième chose, c'est que
les quelques restes à la maison, ça vaut autant que la personne qui se déplace dans un bureau de vote.
Oui, moi je ne les méprise absolument pas.
Et je pense personne n'a dit qu'ils étaient méprisables.
Le vote n'est qu'un des paramètres de la démocratie. C'est un paramètre important, le vote libre. Mais enfin, vous avez plein de pays autoritaires dans lesquels le vote est pseudo-libre. Mais juste, lorsque vous
êtes là, le vote est souvent trafiqué.
Non.
Il n'y a pas les candidats, il n'y a pas tous les candidats.
Trafiqué. Mais ce que je veux dire, la qualité du débat public fait aussi partie d'un paramètre de la démocratie.
Dernier mot d'Alain.
Moi, je suis tout à fait pour les débats publics. Je suis tout à fait pour la démocratie et pour son perfectionnement, etc., etc. Là, c'est pas ça le problème. Le problème dans l'année qui vient, ça n'est pas de réinventer la démocratie, c'est de lui permettre de fonctionner en claudiquant.
Alors, Alain, Pablo,
Tristoun,
vous savez qu'à 18h, c'était l'heure limite pour les candidats qualifiés pour le second tour, pour faire soit acte de candidature ou se désister.
Retirer, oui.
Puisque le désistement, les appels avaient été lancés aussi bien par le camp présidentiel que par la gauche. On a donc les chiffres de 18h par nos confrères Le Monde, qui ont tenu un compteur là depuis dimanche. On a donc 18 candidats qui se sont désistés, ce qui fait qu'à 18h, il va rester 91 triangulaires et 2 quadrangulaires qui sont donc maintenus. Mais on est quand même passé de plus de 300 triangulaires à 91, Alain.
Ben, ça prouve qu'il y a eu une prise de conscience de justement l'importance, la nouveauté, la difficulté et les grands risques de la situation dans laquelle on se trouve. Et que dans ces circonstances-là, il y a eu un comportement de la gauche et de la majorité sortante qui a été un comportement de prise de conscience des risques qui existaient.
Mais est-ce que ça peut justement déjouer
alors, je vais vous dire,
le résultat final et empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité?
Au moment où on parle, on n'en sait rien. Parce que
on va attendre les premiers sondages.
Non, mais voilà, les premiers sondages, ça sera demain. Mais devant une situation de ce genre, il y a deux réactions. Il y a d'une part toute une partie de la population qui se dit réflexe républicain de défense, les libertés, la démocratie, etc. On se mobilise. Et puis, il y en a d'autres qui disent on va encore essayer de nous voler la victoire. Donc,
certains électeurs qui sont orphelins, parce qu'au deuxième tour, ils ne savent pas pour qui voter.
Bien sûr. Non, mais.
C'est pas tout de se désister.
L'arrivée, on se retrouvera devant deux dynamiques. La dynamique que a su créer la gauche, en s'unissant à la grande surprise d'Emmanuel Macron. Elle a su créer une dynamique, et la dynamique du Rassemblement national, qui jusqu'à présent était la plus puissante.
Un mot, Pablo, sur ce compteur. Donc, je redonne les chiffres. Il ne resterait plus que 91 triangulaires.
Oui, ça, c'est un grand
changement. Soir.
En tant que citoyen et en tant que journaliste, je voudrais saluer et rendre hommage à ces 218 candidats et candidates qui sont désistés.
De gauche, comme chez Résistance.
Exactement, comme chez Résistance. Renaissance. C'est intéressant d'ailleurs comme lapsus. Et justement, il faut quand même voir que du côté du nouveau Front Populaire, c'est presque 100% des candidats et des candidates qui sont désistés lorsqu'ils étaient en triangulaire. C'est pas le cas du côté de Renaissance et de
C'est un pourcentage très élevé, mais je crois que franchement, s'il y a quelque chose à dire, c'est plutôt qu'il y a un énorme effort qui a été fait plutôt que l'inverse.
Alors, je suis complètement d'accord et c'est
merci.